Ton accent sur le monde de Montréal.
Bonjour et bienvenue à l'émission État de splendeur. Donc, vous êtes pour la prochaine heure en compagnie de Patrick Assikian. Et puis aujourd'hui, nous avons trois sujets à cette émission. État de splendeur étant une émission qui se concentre sur la culture authentique, tant patrimoniale et traditionnelle que du monde de l'avant-garde. Et aujourd'hui, on parle de développement régional au Québec. Il y a trois sujets principaux. Ça parle en gros d'isolation de certaines de nos régions qui sont parfois oubliés. Alors, en première partie, on parle de l'insularité du Témiscamingue, une région souvent négligée ou très peu publicisée au Québec, en tout cas. Et en deuxième partie, on parle de l'insularité de la Côte-Nord, qui subit un sort un peu similaire. Et puis, pour terminer, si le temps nous le permet, on va initier la chronique fantomatique, qui est une chronique qui explore un aspect défunt de notre culture. Et cette fois-ci, il sera question d'un village fantôme, ce qui peut arriver si l'insularité d'une région demeure pendant une période trop longue et puis si la réorientation économique ne se produit pas. Donc, tout ça après la pause musicale que voici. Parlons donc de développement régional ici à État du Splendeur aujourd'hui. Et puis, vous savez, l'exode rural n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui existe depuis le développement des villes dans le sud. Et puis, bon, comme on sait, l'exode rural est un phénomène qui nuit à l'habitation de nos régions, à l'occupation du territoire. Et ça relègue les régions éloignées à des simples rôles d'exploitation de ressources naturelles. Ce qui, malheureusement, ne cadre pas tout à fait avec la notion de développement durable. On peut le voir, la campagne peut être un lieu de symbiose entre l'activité humaine et son environnement. Souvent, on va trouver des exemples de ceci dans des sociétés plus anciennes, souvent dans l'ancien monde, en Europe, en Afrique, en Asie. Et puis, on peut voir ça, par exemple, comme dans la vallée du Nil, où sans l'activité précieuse de l'homme et du limon, la région sera aujourd'hui des marécages et puis des mouches. Et puis l'agriculture a fait de sorte que la fertilité a su être mise en valeur dans la vallée du Nil et puis ça a donné lieu à toute la civilisation qu'on connaît. Et puis je ne veux pas minimiser non plus l'importance des milieux humides en disant que les marécages, il faut les développer. C'est pas ça du tout. Au contraire, les milieux humides sont très importants. Mais c'est juste pour dire que c'est possible d'avoir une occupation humaine dans une région qui n'a pas été touchée par l'homme, mais de le faire de manière à faire ressortir le meilleur de la nature de cet endroit et de permettre l'occupation humaine. On peut le voir dans des régions campagnardes, rurales, en Europe, en Toscane, en Provence. On voit souvent des lieux où il y a une bonne entente, une cohabitation entre la campagne, la nature et puis l'homme. Cependant, au Québec, c'est une société plus récente. Et puis, il y a peu d'exemples où la campagne a été développée de manière harmonieuse. C'est surtout des développements récents qui sont mono-industriels, si on veut. Mais néanmoins, on peut trouver des zones où il y a un certain développement qui est harmonieux, comme dans Charlevoix, où il y a des vallons et puis des boisés qui sont par-ci et par-là, et puis les terres sont toujours fertiles. Ça n'a pas été développé pour extraire une seule ressource naturelle, détruisant tout au passage. L'Estrie aussi, il y a plusieurs régions comme ça. Mais dès qu'on va un peu plus vers le nord ou vers les régions éloignées, malheureusement, c'est souvent des villes mono-industrielles qui vont faire de sorte que c'est une occupation transitoire. Ça va pas être vraiment durable comme occupation humaine. Et si ça l'est, ben, ça va donner des chaînes de bungalows et c'est tout. Donc, pour faire une région doit être non pas seulement développée en quelques mois pour une seule activité économique, parce que ça doit être dans la dynamique du développement durable. Ça doit être habité par une population qui tient sa région à cœur et qui en prend soin. Au Québec, bon, comme je disais, étant donné que nous sommes une jeune société, on a quelques régions qui ont été développées de manière harmonieuse, mais on voit surtout ça dans les villages et les villes plus anciens. Donc, certaines régions ont été développées dans l'optique de l'exploitation naturelle sans aucune vision à long terme. Ça donne des villes mono-industrielles, très peu développées et isolées souvent. C'est non conçu pour la prospérité d'une population locale. C'est conçu pour simplement l'exploitation de ressources naturelles, qui, soit dit en passant, est nécessaire, mais quand on conçoit une ville uniquement autour de l'exploitation d'une seule ressource naturelle, généralement, c'est pas très durable. Et puis, ça donne un résultat qui, ne serait-ce qu'esthétiquement, est très peu plaisant. Alors, une de ces régions est de manière certaine le Témiscamingue. C'est la région la plus à l'ouest du Québec. Et puis, cette région, c'est en fait une sous-région. C'est la partie souvent oubliée de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, l'Abitibi-Témiscamingue comprend non seulement l'Abitibi, comme Raoul Duguay le chante si bien, mais aussi le Témiscamingue, qui est la MRC, juste au sud de l'Abitibi. Et puis, elle est en fait, contrairement à ce que bon nombre de personnes savent, mais très peu de personnes savent grand-chose du Témiscamingue, pour des raisons qu'on va voir après la pause musicale qui s'en vient dans quelques instants. C'est une région extrêmement fertile parce que il y a des terres autour du lac Témiscamingue qui sont particulièrement riches. Et puis, ça a donné toute une agriculture vraiment fort prospère. Ben, fort prospère qui est relativement abondante. Et puis, ça renferme même différents terroirs assez bien délimités par des quasi-microclimats. Souvent, grâce à l'influence du lac Témiscamingue, justement. Cependant, en novembre dernier, au chef-lieu du Témiscamingue, personne n'en a entendu parler, parce qu'aux médias, on n'en parle pas beaucoup. Le chef-lieu du Témiscamingue, c'est la ville de Ville-Marie. Et puis, justement, en novembre dernier, il y a eu une marche de 3200 personnes pour inciter les gouvernements à sauver la région de la crise économique qui sévit un peu partout à travers le monde, mais aussi à travers le Témiscamingue, de manière plus concentrée. Puisque, actuellement, le Témiscamingue vit surtout de foresterie et d'agriculture. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres activités économiques, voire aucune. Et, bon, comme on sait, il y a une crise forestière en ce moment qui fait de sorte que il y a beaucoup de pertes d'emplois du côté de la foresterie. Et puis, il y a bon nombre de problèmes que vivent les agriculteurs de la MRC. Et ça fait qu'aujourd'hui, ben, quelque chose doit être fait pour diversifier l'économie de cette région. Parce que, pour juste prendre l'exemple de l'agriculture, 40% des fermes du Témiscamingue sont en crise. Et puis, en 6 mois, il y a des dizaines de fermes qui ont fermé. Sans compter, il y a des moulins à scie qui ont des difficultés. Et puis, la situation est à un point assez critique. Et puis, depuis novembre passé, nous n'avons pas vraiment vu de plan de sauvetage du Témiscamingue particulièrement. Mais bon, il y a eu quand même une manifestation de 3200 personnes à Ville-Marie et la ville de Ville-Marie compte moins de 3000 personnes. C'est donc vous dire si le Témiscamingue s'est mobilisé. Cette journée-là, il y a plein d'entreprises qui avaient fermé pour justement aller à cette manifestation-là. Et on semble pas tout à fait prendre en considération le Témiscamingue. Mais nous allons voir, après la pause musicale, de quelle manière il peut avoir de la revitalisation économique. Et quand je dis revitalisation économique, c'est-à-dire que ça va découler. C'est pas juste l'activité économique qui va faire de sorte que tout va bien, mais tout ce qui découle de l'activité économique, comme la prospérité de la population et donc la vivacité, ne serait-ce que culturelle de la région. Alors, on va voir après la pause musicale qui s'en vient tout de suite, quel genre d'activité il est possible de faire pour assurer la reprise économique du Témiscamingue. Un peu comme il y a quelques années, en fait, au début des années 2000, la Gaspésie avait lancé ce cri qu'elle avait beaucoup de difficultés. Et puis finalement, avec le temps, ils ont fait des campagnes. Et puis, il y a eu beaucoup d'immigration en Gaspésie, un exode urbain en quelque sorte, souvent des Montréalais, des gens de Québec qui partaient vers la Gaspésie. Et puis, il y a comme un certain regain et une certaine effervescence culturelle en Gaspésie. Et puis maintenant, ben, ce serait au tour de certaines autres régions à passer au redéveloppement. Pour tout de suite, nous allons aller écouter un artiste qui est artisanal, mais qui est électronique, qui travaille de manière artisanale sa musique, un artiste montréalais qui s'appelle Mosso. Et on va écouter une pièce inédite de lui qui s'appelle Intermood. C'est tout de suite à l'émission État de splendeur sur les ondes de Radio Centre-Ville. Thank you. C'était la pièce Intermood de l'artiste montréalais Mosso. Et nous parlions, juste avant cette pause musicale, du Témiscamingue et puis de l'insularité du Témiscamingue. En fait, comment ça se fait qu'il y a une insularité au Témiscamingue? C'est tout simplement à cause des voies d'accès. Mais on avait dit qu'on allait parler de quelle manière peut se repositionner le Témiscamingue. Et puis, c'est justement à travers... Ben, il y a plusieurs méthodes, mais il y en a une qui a déjà débuté. Et puis, c'est avec le développement agroalimentaire. Je vous ai dit avant la pause que le Témiscamingue est une région extrêmement fertile et qui compte beaucoup de ressources et une certaine abondance au niveau des produits qui peuvent s'y faire, des produits surtout de l'agriculture, mais aussi de d'autres modes d'exploitation agroalimentaire. Et puis, on a commencé à faire au Témiscamingue différentes productions, comme par exemple, il y a le cru du clocher, qui est un fromage, qui est un type de cheddar, mais qui est âgé, et qui est fait avec du lait cru, qui est produit au Témiscamingue, et puis qui est maintenant commercialisé à travers le Québec, même en Ontario, qui semble bien fonctionner. Et il y a aussi... une des choses les plus intéressantes qui sort du Témiscamingue, et ça a été l'objet d'une émission de État du Splendeur sur la radio web de État du Splendeur. Vous pouvez toujours la trouver dans la section radio du site étatdusplendeur.com. Et puis, c'est le caviar du Témiscamingue. En fait, oui, comme contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, au Québec, il se fait du véritable caviar. Et pas des œufs de poisson, là, parce qu'on sait que le véritable caviar, digne des plus grands amateurs russes de caviar de beluga, le caviar ne vient que de l'esturgeon. Tous les autres œufs de poisson ne sont que des œufs de poisson et on ne peut pas appeler ça caviar. Mais au lac Témiscamingue existe de l'esturgeon jaune, chose qui est relativement rare en Amérique du Nord, quoiqu'il y en a ailleurs aussi. Là. Et puis, cet esturgeon est exploité dans le lac Témiscamingue pour ses œufs, qui fait un fantastiquement bon caviar qui est très réputé et de calibre international. Alors, ce caviar est exploité par la poissonnerie Témis, et puis vous pouvez le retrouver à différents endroits, à Montréal et à Québec, et puis dans différentes villes, et puis c'est un véritable délice. Je vous recommande d'ailleurs d'aller le chercher dans certains marchés publics, on peut le trouver, notamment au marché Jean Talon, pour ne pas préciser la boutique dans laquelle on peut le trouver. Mais c'est ça, le caviar du Témiscamingue est très réputé. Ensuite, il y a le vin. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, le Témiscamingue n'est pas trop au nord. Mais en fait, le Témiscamingue est assez au nord, mais grâce à son microclimat, il se prête très bien à la culture de la vigne. Et il y a certaines expérimentations qui se font. Il y a notamment des tonneliers qui expérimentent des façons de faire des nouveaux fûts pour élever le vin. Et puis, il y a des expérimentations qui sont fort prometteuses. Alors, attendez-vous à voir des vins du Témiscamingue apparaître dans un avenir relativement rapproché. Alors, ce type d'entreprise d'avant-garde est ce sur doigt compter et ce sur quoi doit compter la région du Témiscamingue pour se repositionner, car je ne crois pas personnellement, évidemment c'est mon opinion personnelle, mais je ne crois pas que ce sera possible de réorienter l'industrie forestière pour qu'elle soit aussi profitable pour les masques qu'auparavant, étant donné la compétitivité internationale. Donc, il faut trouver des nouvelles manières de se repositionner. Et puis, ce type d'exploitation est un bon exemple de repositionnement. Donc, la région, évidemment, doit également miser sur le tourisme. Il y a plusieurs établissements de l'industrie de l'hospitalité qui existent déjà. Même que, c'est surprenant, mais cette émission a été créée au début de la semaine, mais ça a été surprenant de voir que hier, il y a eu un article dans la presse qui parlait justement du Témiscamingue, région oubliée du Québec. Et puis, justement, l'industrie de l'hospitalité y est déjà, mais l'offre pourrait se bonifier un peu plus vers le haut de gamme et se diversifier. Cependant, c'est un peu difficile, étant donné que la région est absolument pas accessible par voie terrestre depuis le Québec, puisque la seule route qui se rend, à part la route qui descend vers le Témiscamingue depuis l'Abitibi, mais la seule route qui se rend au Témiscamingue, s'y rend depuis l'Ontario. Alors, s'il n'y a aucune route qui va depuis le sud du Québec jusqu'au Témiscamingue. C'est une situation pas mal absurde de pays sous-développés, mais que voulez-vous, telle est la situation. Et puis, il faut donc faire un grand détour pour se rendre à Ville-Marie ou à Belle-Terre ou à Témiscamingue. Alors, c'est un peu incompréhensible comme situation. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de route qui se rend du côté du Québec pour se rendre jusqu'au Témiscamingue? Un détour de 600 km qu'il faut faire, depuis Montréal en tout cas. C'est pas tout à fait normal, mais si on se penche un peu plus sur le sujet, on peut voir qu'il existe des routes forestières qui se rendent jusqu'au Témiscamingue, mais les routes forestières sont pas très praticables. C'est-à-dire que, premièrement, l'hiver, elles sont pas ouvertes. Et puis, ces routes forestières, il faut avoir une bonne carte parce que c'est des routes qui sont pas très droites et qui zigzaguent beaucoup. Et si jamais, par pure mégarde, on fait une crevaison sur un chemin forestier, on est pas mal mal pris. D'autant plus qu'il faut avoir ce qu'on appelle communément en anglais un CB ou une radio pour pouvoir communiquer avec les camions forestiers qui circulent sur les chemins forestiers qui ont souvent presque pas de voie d'accotement. Et puis eux, ils fonctionnent par radio pour se donner des avertissements, pour se dire « Ah, un camion de telle couleur qui s'en vient à tel kilomètre, attention », et puis ils s'arrangent pour pas se rentrer dedans. Et puis... ils vont sur une voie d'évitement et laissent passer le camion. Tandis que si on est une voiture et qu'on n'a pas ce système de radio-là, on ne peut pas savoir qu'il y a un train routier rempli de bois qui s'en vient et puis on ne peut pas l'éviter. Et donc, on risque la collision. C'est pour ça que les routes forestières ne sont pas vraiment recommandées pour se rendre jusqu'au Témiscamingue. C'est très, très, très dangereux. Alors, peut-être que ce sera éventuellement possible de prendre quelques-unes de ces routes forestières et les paver pour pouvoir enfin se rendre au Témiscamingue. Qui sait? Ville-Marie fête cette année sa 125e année. Et puis, il y a peu de Québécois qui connaissent le Témiscamingue à cause de justement ce 600 km de détour qu'il faut faire depuis Montréal. Cependant, les Ontariens bénéficient de la seule route qui se rend depuis le sud et puis ils sont des masses à y acheter des chalets. C'est un secret bien gardé? Non, c'est plutôt un joyau à dépoussiérer ou à épousseter. Pour tout de suite, on va aller dans une pause publicitaire. Et puis, en revenant, on va parler d'une autre région qui est pas mal enclavée, qui mérite vraiment d'être désenclavée depuis un certain temps. Et puis, on va écouter une autre pièce musicale de l'artiste Mosso, artiste indépendant électronique de Montréal, avec la pièce Paperclip. Mais pour tout de suite, on va aller en break musical à l'émission État de splendeur, toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et vous pouvez aller consulter les émissions précédentes d'État de splendeur sur Internet à étatdesplendeur.com. Reggae! L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et pourquoi? La réponse à l'émission L'Histoire jugera. Tous les mardis matins, dès 8h.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
La consommation d'alcool de ma femme me compliquait vraiment la vie. Je devais travailler dur juste pour maintenir une vie normale. Le conseiller d'aide aux employés de mon lieu de travail m'a dirigé vers les groupes familiaux Al-Anon. Je ne pensais pas que j'en avais besoin, mais cela a été une excellente suggestion. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre de personnes comme vous dans une réunion des groupes familiaux Al-Anon. Composez le 1-888-4-Al-Anon.
Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. Les Montréalais et Montréalaises de toute origine échangent sur Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde.